Vous écoutez RTL. 7h, 9h30, RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
8h22, merci d'écouter la première radio de France. Bonjour Florence Parly.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes bien entendu ministre des Armées. Madame la ministre, avant d'aborder la question du budget de notre armée qui est très importante, un commentaire sur cette enquête publiée par nos confrères de Libération ce matin et ces affaires de harcèlement au lycée militaire de Saint-Cyr. Les témoignages sont effroyables. On parle de scènes d'humiliation, d'harcèlement moral quotidien sur ces jeunes filles. Filles considérées, je cite, comme le diable, qui n'ont rien à faire là et tout ça en toute impunité. Quelle est votre réaction ?
Ma réaction, c'est que le ministère des Armées n'a pas attendu les révélations de Libération pour s'attaquer au problème, car il est réel, en effet. Donc, depuis 3 ans, une inspection complète de l'ensemble des établissements scolaires, puisque vous savez que nous avons des collèges, des lycées, puis des écoles supérieures, ont été inspectées et un certain nombre de dysfonctionnements, y compris graves, ont été relevés. Des mesures ont été mises en œuvre. Il se trouve que dans certains établissements, et en particulier un, des agissements inacceptables se poursuivent. Et donc, vous pouvez compter sur mon engagement pour que des mesures soient mises en œuvre. Mais... parce que nous ne pouvons pas accepter que dans les armées, il y ait une quelconque discrimination.
Donc, vous nous dites « nous savions » et vous avez, en quelque sorte, d'ores et déjà ordonné des enquêtes.
Absolument. Et ce ministère s'est beaucoup engagé contre le harcèlement de toutes sortes. Une cellule a été mise en place par mon prédécesseur pour permettre la dénonciation de faits de harcèlement de toutes sortes. C'est une cellule qui fonctionne en dehors du commandement et elle est évidemment ouverte aux élèves collégiens, lycéens. C'est un ministère qui ne tolère pas le harcèlement et pour ce qui me concerne, c'est tolérance zéro. Donc, nous redoublerons d'efforts pour que ce comportement de minorité, car il s'agit bien d'une minorité agissante, cesse ces agissements.
Mais quelles peuvent être les sanctions en la matière, pour le coup ?
Les sanctions en la matière, ce sont des sanctions qui sont liées à l'exclusion, également des sanctions éventuelles contre le corps enseignant, si celui-ci ne réagit pas et ne prend pas les mesures qui conviennent. Il est inacceptable au XXIe siècle que des jeunes filles soient l'objet de pareilles discriminations.
Merci de cette réponse très claire. Revenons donc sur cette loi de programmation militaire en discussion à l'Assemblée. Hier jeudi, les députés ont voté la hausse sensible du budget des armées qui va passer progressivement de 34 milliards à 50 milliards d'euros. Au total, vous prévoyez de consacrer 295 milliards d'euros à notre défense entre 2019 et 2025. On a envie de se dire c'est peut-être trop beau pour être vrai. Est-ce que nous avons les moyens de ces ambitions?
Oui, tout à fait. Nous avons les moyens de cette ambition. Nous avons passé 3 jours et 3 nuits à l'Assemblée nationale, en effet, sur ce projet de loi de programmation militaire, qui fixe les moyens pour notre défense pour les années 2019 à 2025.
Mais où le trouve-vous l'argent ? Je vous pose la question très simplement.
Eh bien, nous l'avons, si je puis dire, déjà trouvé, puisque dès le budget 2018, nous avons investi 1,8 milliard d'euros de plus. Quel est le cap ? Il est très clair, c'est celui d'atteindre en 2025 2% de notre richesse nationale et de l'investir en faveur de notre défense. Pourquoi ? Parce que pendant des années, et cela fait plus de 10 ans que cela dure, il y a eu un écart croissant entre d'un côté des armées qu'on a sollicitées de plus en plus pour un nombre croissant d'opérations, en particulier d'opérations extérieures, et puis de l'autre des moyens qui n'ont cessé d'être réduits. Et ce grand écart-là n'était plus tenable parce que les matériels, comme les hommes et les femmes, ont été usés et il faut donc réinvestir pour réparer à la fois le présent et puis bien sûr pour faire face à l'avenir.
Vous avez prévu une actualisation de ce budget en 2021 en fonction des chiffres de la croissance. Ça veut dire quoi ? Qu'on pourra le revoir à la baisse et qu'on pourra revoir à la baisse le budget des armées à ce moment-là ?
Ça veut dire qu'en 2021, nous aurons un nouveau rendez-vous avec la représentation nationale. D'abord pour vérifier que la loi de programmation militaire qui est en cours d'examen s'applique conformément aux engagements qui ont été pris. Et c'est donc à cette occasion que l'on pourra vérifier que, année après année, les budgets ont bien prévu les moyens qui ont été promis. Et de l'autre, on regardera quelle sera la prévision du PIB pour 2025 et on en tirera les conséquences en termes de chiffrage de ce que devra être l'effort résiduel qui restera à fournir. Donc c'est une clause de rendez-vous qui permettra de faire le point et de déterminer les moyens permettant de réaliser l'objectif promis par le président de la République de redoter nos armées des moyens qui leur sont nécessaires.
Parmi les critiques de cette loi de programmation militaire, on souligne que l'effort financier repose sur le quinquennat suivant. Alors, ça n'a rien de neuf, mais en même temps, on se dit plus 3 milliards d'euros par an à partir de 2023. Voilà, qu'avez-vous à répondre en finalement? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous engager sur des budgets que vous ne gérerez jamais et qui seront éventuellement mis en place ou qui devraient être mis en place par des équipes qui ne seront pas celles qui sont actuellement au pouvoir?
Moi, j'appartiens à un gouvernement qui, depuis qu'il est en responsabilité, c'est-à-dire depuis 10 mois, a tenu ses engagements. Quels sont-ils? En 2017, nous avions un budget de la défense qui était promis à des coupes budgétaires très importantes. Nous avons dégelé l'ensemble des crédits qui devaient l'être, et donc le budget 2017 a été intégralement exécuté à l'euro près. En 2018, nous avons augmenté d'1,8 milliard d'euros l'effort. Donc ce sont des signes positifs, ce sont des signes plus après des réductions de moyens et des réductions d'effectifs. Donc je pense que le fait de passer des signes moins aux signes plus est un signe extrêmement fort de notre engagement à poursuivre.
Mais ça ne préjuge pas de ce qui se passera dans 5, 6 ou 7 ans.
Mais nous aurons des rendez-vous tous les ans, Yves Calvi, tous les ans. Dans le cadre des budgets.
Si ce n'est que vous engagez les prochains gouvernements, nous sommes bien d'accord.
Je n'engage pas, personne n'engage les prochains gouvernements, puisque nous avons précisément un rendez-vous en 2021, à un moment où nous serons encore en responsabilité, pour pouvoir prendre les bonnes décisions afin de satisfaire l'objectif qui est de tenir le cap des 2% du PIB en 2025.
Alors, renouvellement et modernisation des matériels sont les maîtres mots, on l'a bien compris. Une question très spécifique concernant le service national universel voulu par Emmanuel Macron. Qui va payer, Florence Parly, puisqu'on est dans les questions budgétaires?
Eh bien, ce ne sont pas les moyens de la loi de programmation militaire dont nous avons discuté pendant 3 jours et 3 nuits à l'Assemblée nationale.
Le président de la République... Rien sur le budget des armées.
Rien sur le budget des armées. Le président de la République l'a indiqué. Il y aura un financement ad hoc. C'est très important et ça a été reprécisé au cours de ces débats parce qu'on peut comprendre qu'en effet, les investissements de réparation et d'investissement pour l'avenir que nous prévoyons dans cette loi de programmation militaire n'ont rien à voir avec le service national universel.
Financement ad hoc, ça veut dire tout simplement financement spécifique et hors, bien entendu, des cases budgétaires de nos armées.
Ce sera un financement spécifique. Bien entendu, ça ne veut pas dire que nos armées seront extérieures à la mise en œuvre de ce service national.
Mais alors, quel rôle jouera l'armée dans ce service national?
Eh bien, il aura certainement un rôle important parce que d'ores et déjà, nos armées jouent un rôle important vis-à-vis de la jeunesse. Or, ce projet de service national, c'est un projet ambitieux, enthousiasmant pour notre jeunesse parce que nous avons une jeunesse qui a soif d'engagement.
Et donc, les armées,
aujourd'hui, les armées sont investies par exemple dans le cadre d'un service militaire volontaire, sont investis dans la garde nationale, la réserve, la journée défense et citoyenneté. Donc nos armées sont déjà très au contact des
jeunes.
Mais
vous serez un cadre, vous allez accueillir, vous allez donner du personnel qui encadre ces jeunes gens. Enfin, vous nous dites qu'on sera là, mais on ne comprend pas précisément ce que vous allez faire.
Ce projet est en cours de définition. Un groupe de travail dirigé par un général, le général Menahouine, va faire des propositions pour la fin du mois d'avril, et sur cette base-là, nous pourrons avancer. Ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est un certain nombre de choses sur ce que sera ce service national. Oui, il sera obligatoire. Oui, il sera universel, c'est-à-dire qu'il concernera l'ensemble d'une classe d'âge. C'est considérable.
Oui.
Ce sont 800 000 jeunes chaque année. Oui, il concernera bien plusieurs ministères. Oui, le ministère des Armées sera amené à apporter son soutien, son savoir-faire, son expertise, comme je le disais tout à l'heure, puisque nous faisons déjà beaucoup de choses en faveur des jeunes.
À partir de quand, Florence Parly?
Cela fera partie des décisions qui sont à prendre. En tout cas, il y aura un service national universel au cours du quinquennat.
La journée de défense et de citoyenneté va-t-elle disparaître pour le coup?
Ça fait partie des questions qu'il faudra traiter, puisque nous allons nous inscrire dans un dispositif plus long, puisque ce service universel se situera entre 3 et 6 mois. Donc probablement, la journée défense et citoyenneté aura vocation à se restructurer, voire à se fondre à l'intérieur de ce service national universel. Mais je ne veux pas préjuger du format que prendra ce service national. Encore une fois, un peu de patience. Je sais que ça passionne énormément beaucoup de gens, et c'est extrêmement positif, parce que c'est un magnifique projet, mais encore quelques semaines de patience et je pourrai venir vous en dire plus.
Merci Florence Parly, vous serez la bienvenue bien entendu sur la Première Radio de France. Très bonne journée à vous.
Merci beaucoup.